La première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Cette nuit, je devinais ce crépuscule qui tombe sur les bords de nos océans. Une musique commence à remplir l'atmosphère. Ces silhouettes qui se découpent sans arrêt, comme sur les parois d'un enfer. Elles s'amassent toujours plus, ombres pesantes. Ils sont nombreux. Les cales en sont pleines. Ils ont des pirogues qui chevauchent la vague. Les coques se brisent. Des lames découpent les êtres par l'intérieur. On entend une femme gémir avec le vent. Elle voudrait crier à l'aide. Mais cela est étouffé, comme tout le reste. De l'eau salée s'engouffre par la trachée d'un homme vêtu de bleu. Sa peau est sombre. La mer est sombre. Le cadavre de l'homme en bleu, sombre.
Faire vivre les droits culturels autour de la rencontre du site Grand Ornu le 4 octobre dernier avec Fabien Fiorini, Laurent Wanson, François Stulkens, Bernard Focroul, Luc Carton, André Foulon.
Sur une barque, un nouveau-né vagit dans le sein de sa mère. La surveillance maritime est là, il ne doit pas être entendu. Le passeur qui doit penser à tout est obligé d'arracher l'enfant par le bras et de le jeter à la mer d'un mouvement ample pour que l'écume se referme sur lui. Et qu'il se taise, la musique s'arrête.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Des places de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Aleschinski.
Authentique, me tento, me tente, me tente, me stelle.
Le monde invisible.
La musique s'arrête, c'est dans le texte ?
Oui. C'était des indications, une musique qui commence à remplir l'atmosphère, c'est lui qui l'a écrit. Parce que je pense aussi que c'était peut-être dans son idée à lui de comment ça devait interagir avec... C'était originellement pour une pièce.
C'est une didascalie.
Voilà,
en fait.
c'est ça. La musique s'arrête et une musique commence à remplir l'atmosphère. C'est sans doute qu'il voulait qu'il y ait un accompagnement quelque part à ce drame. Et donc c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, tiens, c'est un bon extrait pour le mettre en musique. Faire bon extrait. Quelque chose était possible dans l'interaction. Mon nom, c'est Fabien Fiorini. Je suis pianiste et compositeur belge, 46 ans.
Droit culturel, Laurent Wanson, vous pensez à quoi ? L'homme de théâtre que vous êtes ?
Je crois que le droit culturel interroge aussi la question à la fois de l'accès à la culture, d'une part, et d'autre part, à qui est le droit culturel, quoi, qui a le droit à la parole, et en quoi les paroles des diversités, et aussi des paroles qu'on n'entend pas de façon commune, peuvent en effet faire avancer l'ensemble du processus démocratique, ou l'ensemble de la société, ou en tout cas l'interroger. La question pour moi de l'articulation du droit culturel, c'est aussi le temps réel qu'on prend à écouter ces paroles, à les digérer, à les comprendre. Parce que c'est très étrange, on voit que autant au niveau juridique qu'au niveau structurel, énormément de choses sont mises en place. J'ai l'impression d'être dans une société qui est de plus en plus fragmentée ou de plus en plus clanique.
Avec Fabien Fiorini, Laurent Wanson...
C'est de savoir comment on peut lézarder les nouveaux murs qui se dressent, qu'on ne soit pas complaisant envers nous-mêmes, sur les moyens qu'on met en œuvre, afin d'écouter l'autre et de se donner la porosité nécessaire à s'enrichir de la parole de l'autre.
François Stumpkins, les droits culturels, oui. Ce sont des droits qui vous intéressent?
Mais oui, moi j'ai passé toute ma vie à travailler dans les droits civils et politiques, le droit à la liberté, la torture, la vie et tout ça. Et puis maintenant, je me dis, cette seconde génération des droits de l'homme, les droits économiques, sociaux, culturels, oui, oui, ça m'intéresse même passionnément, je vais vous dire. Même si c'est une catégorie un peu oubliée, hein, des droits humains. Mais ce sont des droits humains, ça c'est clair.
Et pourquoi oublier?
Oublier parce que dans toute l'histoire des droits, les droits de liberté, ça, évidemment, c'est depuis le 19e siècle, même le 18e siècle, ils étaient à l'avant-poste de tout. Il faut se protéger contre l'État Léviathan, et ça je comprends très très bien. Et puis progressivement, les droits économiques, les droits sociaux, très bien. On a ajouté les droits culturels presque un peu par accident, alors que ce ne sont jamais vraiment développés. C'est pour ça que j'aime bien ce groupe de culture et démocratie, parce que maintenant, ils mettent les droits culturels un peu en avant.
Nous sommes de toute façon une forme de lasagne. Nous sommes une accumulation d'identités. Et il y a des identités qu'on choisit, il y a des héritages qu'on prend, il y a des choses vers lesquelles on tend, des rêves vers lesquels on tend. C'est tout ça qui forge nos identités culturelles. Mais je dirais que globalement, pour moi, la chose très importante dans cette notion de droit culturel, c'est d'admettre le fait que tous nous sommes la culture. Tous nous sommes des cultures, mais tous nous sommes la culture. Ici, dans l'instant qui nous est donné, nous sommes dans cette réalité culturelle-là. Et c'est cette réalité culturelle-là qu'il faut faire entendre. Qu'il faut faire entendre, qu'il faut faire partager et circuler.
Laurent Wanson.
Là, en jouant la chute au Théâtre des Martyrs, il y a eu beaucoup d'écoles. Beaucoup de matinées, entre autres. Donc, en effet, c'est essentiel de rendre encore plus prégnant l'accès par l'école. Le fait, c'est de toucher ne fût-ce qu'un individu ou deux individus et de les interroger dans leur intimité. Et c'est vrai que, bon, moi, j'ai toujours aimé travailler aussi en répétition ouverte, donc être dans des formes de confrontation avec des publics divers, des groupes, des gens de façon très diverse, afin que le réel vienne se confronter aussi continuellement à ma pratique artistique.
Faire vivre les droits culturels.
C'était considéré comme des droits élites, et des choses pareilles, ce qui n'est plus vrai du tout. Voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse. Et c'est pas du tout des droits qui doivent accentuer l'identité culturelle. Et l'identité, c'est un concept extrêmement dangereux parce que c'est eux contre nous. Non, c'est vraiment reconnaître la diversité de nos origines. On est héritier de 1000 cultures, enfin, de beaucoup de cultures. Mais d'autre part, ça nous fascine. Ça fascine et façonne. Oh, c'est joli, moi, là-dessus, c'est joli. Ça nous fascine et ça nous façonne par rapport à notre humanité, ce qui est un peu la dignité de l'homme, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse vraiment. Après avoir été à la Cour des droits de l'homme, on ne faisait que les droits civils et politiques, et bien maintenant je m'intéresse à ça.
Un prolongement, vous dites, est cette question de différence.
Oui, pour moi elle est vraiment, vraiment importante, parce que le risque des droits culturels, c'est de se focaliser sur l'identité, et la question de l'identité, c'est un peu un facteur de différenciation. Et que lorsqu'on développe trop le thème de l'identité culturelle, au fond je n'aime pas. Lorsqu'on développe, comme on l'a entendu maintenant à l'Union européenne, le mode de vie européen, c'est alors une manière de discriminer, ou en tout cas de dire que les autres, c'est pas nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment développer la notion de, j'aime pas appeler ces mots, ça fait un peu bateau, mais quand même, de l'identité plurielle, et en tout cas de la diversité. C'est ça la force. Et la culture, c'est ce qui nous rattache à l'humanité et à la dignité de chaque personne humaine. Vous, moi, les enfants, les jeunes, enfin tout le monde.
François Stulkens.
Parce que l'idée, par exemple, de patrimoine qu'on entend souvent, ça peut aussi être une notion dangereuse. Il y a eu un manifeste avec Vercheval, Faucroul, encore d'autres personnes, je ne me rappelle plus le nom. Et alors, ils ont vraiment, pour la toute première fois, moi, j'avais jamais vu ça en Belgique, et pas à l'étranger non plus. Il ne faut pas croire que des mouvements comme ça existent ailleurs, ça je ne pense pas. Et ils ont fait le lien entre démocratie et culture, et que c'est une relation de l'un à l'autre. La culture nourrit la démocratie et vice-versa. Moi, j'avais jamais entendu ça. Et quelqu'un comme Faucroul, il a vraiment développé ce thème. Alors, comme les droits humains, moi, m'intéressaient, c'était un peu ma vie, enfin, c'est toujours... Tout d'un coup, j'ai vu ce lien qui a été fait. Et Culture et Démocratie a fait des choses magnifiques, hein, mais magnifiques.
Culture et Démocratie est née en 1993-94 à l'initiative d'un certain nombre d'acteurs culturels francophones et flamands à l'époque. C'était une initiative bicommunautaire à une époque où ce n'était pas spécialement évident.
Et donc j'aime bien, après avoir fait le travail à la Cour, maintenant d'arriver dans une nouvelle dimension des droits humains. Alors les droits économiques sociaux, j'aime beaucoup aussi, mais voilà, il y en a beaucoup qui le font et qui le font très très bien, et je ne ferai jamais aussi bien qu'eux, tandis que cette petite catégorie oubliée, elle m'intéresse.
Faire vivre les droits culturels.
Ce qui nous mettait en mouvement, c'était une forte conviction qu'il était nécessaire de renforcer les liens à l'intérieur du monde culturel entre
Bernard von Krull,
les flamands et les francophones, mais aussi entre francophones, par exemple, entre le monde de la création et le monde socio-culturel ou de l'éducation permanente, avec une réflexion de fond sur pour quel public travaillons-nous et sous quelle forme. Et on voit bien que ces questions-là, à une époque où la notion de droit culturel n'était pas encore formalisée comme elle a pu l'être depuis lors, en fait, ces questionnements touchaient à ces questions fondamentales qui aujourd'hui sont reprises à l'échelle internationale et puis aussi à l'échelle de nos communautés, de telle sorte que les acteurs culturels sont amenés à s'interroger sur leurs pratiques. Que faisons-nous pour aller à la rencontre de ceux qui sont éloignés de notre culture ou de nos formes hérité du patrimoine, etc. Et que pouvons-nous faire pour leur donner la parole, pour leur donner une place, pour stimuler leur participation, pour créer des courants d'air entre nous aussi, entre orchestres, compagnies de danse, associations de terrain, de banlieue, etc. Et on voit qu'il y a un bouillonnement qui se produit, mais en même temps, c'est important de se retrouver pour échanger à ce sujet-là.
Les cultures à démocratie, ils ont été des pionniers là-dedans, ça c'est certain. J'ai vu tous les bouquins qu'ils ont faits sur toutes les questions, donc je les aime beaucoup, mais moi je suis simplement une admiratrice de culture et démocratie, j'ai aucune responsabilité là-dedans, je n'en aurai jamais. Il faut des gens qui vivent, qu'il faut, et puis des gens qui observent. Hein. Moi je suis de ce côté-là.
Droit culturel, ça vous dit quoi, Luc Carton ?
Ça me passionne, en tout cas. Je travaille depuis une dizaine d'années là-dessus. Je suis maintenant vice-président de l'Observatoire de la diversité et des droits culturels de Fribourg, en Suisse.
Le champ de la création artistique aujourd'hui, il est forcément très sensible aux questionnements qui traversent le monde, aux grands enjeux actuels, planétaires, climatiques, sociaux, migratoires. Et donc forcément, on va retrouver dans les créations littéraires, visuelles, musicales, théâtrales, même chorégraphiques, on va retrouver tous ces questionnements sous des formes assez neuves hein, en termes d'esthétique et de format. La question qui est débattue aujourd'hui, c'est aussi de voir comment nous assurer que ces formes nouvelles soient effectivement accessibles à ceux qui soit sont arrivés récemment dans le pays ou à ceux qui peut-être n'ont pas une fréquentation culturelle ou des formes d'expression traditionnelles. Voilà, donc c'est un questionnement à la fois sur le fond et sur la forme.
Il y a une connotation de nostalgie bien sûr, des choses qui sont les nôtres, que nous connaissons, qui font partie de notre culture classico-classique, presque judéo-chrétienne. Donc là aussi, on doit un peu se détacher de ces concepts qui... Voilà, c'est pour ça que maintenant, oui, je m'y intéresse vraiment. Sinon, je ne serais pas ici. Hein.
Il se fait que Bernard, étant fondateur de Culture et Démocratie avec Laurent Buzine, qui était le directeur du MACS, du Musée des Arts Contemporains, et que je connais très bien Laurent, ben, je m'étais dit, on va faire une rencontre peut-être avec les fondateurs en regard à notre thématique racine, avec les fondateurs de Culture et Démocratie, et montrer comment les institutions ont grandi, à la fois le MACS, Culture et Démocratie, et nous, Festival Musical du Hainaut et Festival de Wallonie. Et puis quand on a rencontré Bernard, il m'a dit « Écoute, j'ai pas tellement envie qu'on parle de moi, voilà, je préfère qu'on aborde un sujet qui me tient très à cœur, ce sont les droits culturels. » Et voilà comment l'idée est venue de se rassembler, d'essayer de trouver un panel de personnes vraiment compétentes pour évoquer le sujet. Et ça s'est fait vraiment en toute complicité, en toute amitié, et voilà, j'en suis heureux.
Les droits culturels, ça pourrait être la matrice d'une nouvelle époque de la démocratie. Une démocratie continue, une démocratie approfondie, une démocratie généralisée, bien au-delà de la démocratie capacitaire que l'on connaît encore.
Parmi les orateurs, des juristes, anthropologues, artistes, de la scène et des arts plastiques.
Oui.
C'est une hypothèse, c'est un désir, c'est une volonté qui anime une série d'acteurs. Je travaille beaucoup en France là-dessus, et en Belgique aussi. L'idée des droits culturels, c'est l'idée d'introduire de la réflexivité dans les droits, c'est-à-dire de permettre que l'ensemble des droits humains, des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, puissent être investis d'un processus de signification.
Le carton.
Si le droit de vote en Angleterre avait été investi culturellement. C'est-à-dire que l'on rassemble des circonstances appropriées à ce que le vote puisse se faire dans l'intelligence de la question. Et le Brexit n'aurait probablement pas eu lieu.
Pour beaucoup de personnes, le fait que ce soit un festival de musique qui convoque, les gens ont pensé certainement au départ que c'était réservé uniquement à la musique. Or, nous, notre souci, c'était justement d'élargir à toutes les formes d'expression artistique, puisque les droits culturels les concernent toutes.
L'ensemble de nos droits civils et politiques, l'ensemble des droits économiques, sociaux et culturels, sont aujourd'hui encore des droits relativement formels. L'idée des droits culturels, c'est de les habiter de processus de signification partagés, sans fin, je veux dire, de manière à se rapprocher, même de loin, mais se rapprocher de l'idéal démocratique qui est que chacun, à égalité en droit, puisse également s'impliquer dans des processus d'expression des contradictions, des processus d'analyse, des processus de délibération, de manière à fonder en démocratie culturelle les arbitrages politiques. On en est très loin, évidemment.
Et donc, on a pris chaque fois dans chaque domaine des personnalités qui sont vraiment très au fait de cette problématique des droits culturels. Et voilà, ça s'est fait par amitié, par relais, par connaissance, par coup de fil, voilà.
Introduire les droits culturels dans le champ des relations collectives de travail, c'est autoriser le salariat, les travailleurs, à poser la question du sens du travail et de la destination sociale de la production. À quoi sert ce que je produis? Et comment puis-je exprimer et jouer ma liberté et ma créativité dans les rapports de production? Est-ce possible? Voilà ce que signifierait le déploiement effectif de droits culturels.
Faire vivre les droits culturels. Break Network, nature morte, nature vivante.
Ce que j'aimerais définir, mais pour l'instant c'est, je dirais, c'est le statut d'idée pure, c'est, par exemple, d'ouvrir un créditant sur l'ensemble de l'existence humaine qui permette à chacun, par exemple, un jour par semaine, tout au long de sa vie, de dédicacer son temps, mais donc avec des revenus et des droits y attenant, pour habiter les fonctions collectives. J'appelle fonctions collectives tout ce qui nous permet de vivre ensemble, que ce soit la santé, que ce soit l'agriculture ou l'urbanisme, que ce soit l'aménagement du territoire ou la culture, l'éducation, l'enseignement ou la formation. L'idée, c'est que chacun puisse, et d'une certaine façon, soit appelé, soit invité à habiter les fonctions collectives. Nous avons besoin de conseillers publics hospitaliers, nous avons besoin de conseillers publics scolaires, nous avons besoin de conseillers publics agricoles, ruraux, nous avons besoin de conseillers publics urbains. C'est cette idée-là. L'idée qui est fort bien construite par l'idée de commun de Dardot et Laval. Le commun, qui est théoriquement une transgression du droit de propriété, se définit comme une démocratie des usages. Cette démocratie des usages, elle repose sur une délibération élargie et profonde. C'est bien ça pour moi, l'enjeu du déploiement des droits culturels.
Ce que vous dites là, Luc Carton, me fait penser à ce que des habitants de la ZAD, vous voyez, Notre-Dame-des-Landes,
oui,
tentent de pratiquer d'une certaine façon.
Bien sûr, dans ces émergences-là, il y a ça qui se met au travail, qui s'expérimente, qui se tâtonne. Effectivement, les idées ne naissent pas de l'abstraction, elles naissent des intuitions d'une époque, elles naissent du moment d'une époque, et je perçois bien ce moment-là depuis facilement une vingtaine d'années. C'est ça qui s'esquisse, qui s'expérimente, qui émerge. Avec toutes les difficultés de l'émergence, hein, nous avons connu ça à d'autres époques, dans les expérimentations de vie communautaire, sans culture juridique, par exemple, ce que j'ai connu il y a une quarantaine d'années, 45 ans à peu près.
Faire vivre les droits culturels, Break Network, nature morte, nature vivante. Break Network, Rétrospective Olivier Depré à la Biblioteca Vitocchiana jusqu'au 18 janvier avec Géraldine David et Olivier Depré.
L'expo Vrek Notwork d'Olivier Depré utilise un processus en fait qui est un processus qui a déjà été utilisé, qui est celui du remploi en fait. Donc le fait d'aller puiser des images, ici ce sont des images issues de films, c'était un choix commissarial de se focaliser vraiment sur les films qui ont nourri l'imaginaire d'Olivier, mais donc de prendre des captures de ces films et de les graver sur bois directement et donc d'en faire l'œuvre quoi. Et donc par ce processus là Olivier questionne en fait la notion de propriété privée, de droit d'auteur, de droit intellectuel, et questionne aussi notre accès à l'image, et donc indirectement aussi notre accès à la culture. Et donc le droit culturel tel qu'il se définit est véritablement l'accès à la culture plutôt que la promotion de la culture elle-même.
Vous avez placé votre atelier au sein de la bibliothèque Vitocchiana. Cet atelier apparaît pour qui le découvre peut-être comme sorti d'un décor d'une pièce de théâtre de Samuel Beckett.
C'est bien possible, oui. Effectivement, j'ai commencé à travailler à partir de Samuel Beckett et plus spécialement du film de Beckett. Et il se fait que cette exposition, elle a été créée aussi en relation avec Roby Comblain, qui est un artiste qui utilise la gravure sur bois aussi, mais qui a une formation de scénographe. Donc je pense que tout ça a joué. Et puis il se fait aussi que cet élément de l'exposition, il évoque un support, un outil que j'ai créé en 2007 avec Maï Sauché, à l'occasion d'une scénographie théâtrale, une pièce de théâtre de Koen De Sutter, qui mettait en scène toutes les minorités linguistiques européennes. Et Koen De Sutter avait souhaité que chaque acteur parle dans sa propre langue et a demandé au collectif Frémok que pour chaque acteur, il y ait un dessinateur et que chaque dessinateur transpose visuellement le récit de l'acteur. Et avec Maï Sauché, on avait imaginé une table roulante.
Break Notwork, rétrospective Olivier Depré à la Biblioteca Vitocchiana jusqu'au 18 janvier avec Géraldine David et Olivier Depré.
Et rapidement, on a compris que cette table roulante, elle allait sortir de la scène initiale pour laquelle elle avait été conçue, et on en a fait autre chose. C'est devenu le projet Black Book Black. Et ce projet, il consistait en aller imprimer dans les bibliothèques des livres noirs aux pages noires. Et ce motif dans l'exposition, c'est un peu ce qu'il rappelle, ce qu'il évoque, parce que Vrek, c'est un moment de, puisque voilà, on a installé dans l'exposition qui s'appelle Vrek Not Work, et Vrek, c'est un moment de mes recherches, de mon travail, je ne sais jamais trop comment appeler tout ça, qui fait le point et qui ramasse toutes ces années d'expérience qui ont commencé par le château, qui sont passées par le Black Book Black, par Après la mort, après la vie, par une expérience donc aussi de relation avec l'art outsider. Et Vrek est un moment qui a un aspect un peu synthétique, qui essaie de faire le point en fait. C'est un moment état des lieux. Et donc, où des motifs que j'avais mis en scène reviennent, mais transformés. Et dans Vrek, il y a de toute façon cette idée de mouvement, puisque l'image, la gravure est mise en mouvement. La case tend au photogramme, et il y a un balancement qui se met entre les deux. Et la gravure devient littéralement un média d'ailleurs qui traverse, qui devient une espèce de moment de dialogue entre plusieurs médias, puisque dans l'exposition il y a des écrans avec des films, avec le film de Beckett, avec des films de Dreyer, de Nosferatu, avec un film Super 8 que j'ai fait à Paris qui évoque le texte de Perec, la tentative d'inventaire qu'il a écrite autour de la place Saint-Sulpice. Et dans Vrek, il y a cette espèce d'ambition de faire un inventaire des images. Il y a un peu un aspect Bouvard et Pécuchet dans Vrek.
C'est le fait de pouvoir ou non accéder à la culture, mais aussi participer aux décisions culturelles, aux politiques culturelles, etc., etc.
Yeah. Oui, 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 Franz Masrel.
Une figure engagée.
Bien sûr, oui, 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 absolument, oui, oui. Franz Masrel, voilà, moi ça a été le choc visuel et la grande rencontre qui a quand même orienté toute ma pratique et d'une certaine manière mon existence. Puisque quand je sors de Saint-Luc, je fais partie de ce collectif qui s'appelle Frigo Production à l'époque et qui s'appelle Frémoc maintenant. Mais quand on sort d'une école d'art, il y a cette question qui vous taraude, et maintenant, que faire? Évidemment, pendant quelques années, on cherche, et puis je me mets à lire le Château de Franz Kafka, à commencer des investigations sur la manière dont je pourrais rendre compte de ce roman, de ce texte. Au cours de ces investigations, je me rends compte, en dialoguant notamment avec Jacqueline Sudakabe-Nazarov, qui a écrit plusieurs livres sur le Kafka dessinateur et sur le rapport de Kafka au dessin et à la gravure, que la gravure sur bois peut être un bon moyen de mettre en scène le texte de Kafka. Et à la même époque, il n'y a pas de hasard, d'une certaine manière, j'arrive dans une librairie de seconde main, quelque part à Saint-Gilles, j'entre, je vois le livre, cette publication de Masrel, c'est vraiment le gros catalogue de Masrel qui porte un nom bien particulier, avec cette tranche rouge, et je feuillette ça, et je découvre quelqu'un qui a fait une œuvre magnifique, et qui développe la séquence, la narration, avec la gravure sur moi. Je me suis dit, mais voilà, voilà. Et donc, Masrel est devenu un modèle pour moi, un modèle, bien entendu, un modèle aussi bien dans les contenus narratifs, dans les formes narratives, et puis son engagement. J'y étais sensible dans le monde dans lequel on vit, comment ne pas être sensible à cet engagement. Et il se fait que il y a un an, je participais à une exposition qui s'appelait Franz Masrel et Olivier Depré, Serial Graveur, où d'une certaine manière, là, ben voilà, la boucle était bouclée. Je revenais à cette relation entre guillemets filiale.
Il y a notamment des captures du film A Man with a Movie Camera de Dziga Vertov, qui est un film, si je ne m'abuse, qui date de 1929, par exemple, mais qui revient de manière récurrente dans l'exposition.
Son génie créateur, en quelque sorte, il impose à celui qui oserait s'en réclamer aussi de réinventer quelque chose. Parce qu'on ne peut pas rester dans le sillage de Thomas Reil, ce n'est pas possible en fait, parce que c'est quelqu'un qui a tellement exploré.
Et un mot sur l'exposition qui a cours à la Vitokiana jusqu'au
19 janvier 2020. Donc il s'agit d'une exposition de la dernière œuvre d'Olivier Depré, qui est graveur sur bois, et l'œuvre s'appelle Vrek Not Work.
Dans beaucoup de sens possibles, dans beaucoup de directions, l'usage de son média, de la gravure sur moi, que répéter ou se mettre dans le sillage de Masrel, c'est tout à fait vain, ça n'a aucun sens. Mais par contre, ça vous met en demeure de réinventer quelque chose.
Des gravures sur bois. Vrek Not Work. Vrek, c'est l'anagramme de work. Work, worken, c'est travailler. En néerlandais, bien sûr, mais aussi en allemand. Et les romantiques allemands utilisaient le mot « Werk » pour désigner l'œuvre plutôt que le travail en lui-même. Et donc il faut prendre le titre au sens de l'œuvre et non le travail.
Géraldine David, vous avez évoqué l'œuvre de Franz Masrel. Y a-t-il également chez Olivier Depré le même engagement?
Alors il y a un engagement aussi extrêmement fort chez Olivier, qui est aussi un engagement à gauche. Et d'ailleurs, il se réclame pleinement de cet engagement-là, dans le sens où même le choix de son médium de prédilection, à savoir la gravure sur bois, il dit que c'est aussi un médium qui lui parle parce que c'est une des techniques les plus simples, finalement, de copie de l'image, et une des techniques les plus anciennes. Et il est assez transparent quant au fait qu'il ressent un vrai héritage de transmission par le biais de ce médium et de cette gravure sur bois. Alors les thématiques qui sont aussi chères à Olivier sont aussi directement liées à une critique effectivement de la société de consommation et du capitalisme. Donc je dirais que c'est un petit peu l'actualisation en fait de l'engagement de Masrel.
Oui, évidemment, il y a le cinéma expressionniste, il y a Nosferatu, le cabinet de Dr Galligari, tout ce cinéma. Mais ce qui m'a le plus marqué encore par rapport à l'image animée et l'image mouvement et Franz Masrel, c'est l'adaptation de Bertolt Brecht de L'Idée, le roman gravé de Masrel, adaptation qui était faite dans les années 30, je pense. Et donc Bertolt Brecht, qui est ce cinéaste d'animation, qui propose à Masrel de faire une adaptation. J'ai vu ce film. En réalité, la première fois que je vois ce film, c'était aux États-Unis, du côté de Boston, parce qu'il y avait eu cette exposition organisée avec Ian Buttons à la Bibliothèque du Livre d'Art de Yale, qui s'intitulait « Le livre illustré de 1918 à nos jours ». Et dans cette exposition-là, eh bien, ce qui s'appelait le collectif Fréon participe à ce moment-là, et moi je représentais ces gens, et on présentait le château, etc. Et au cours de la journée inaugurale de l'exposition, il y a David Berona, qui était un chercheur spécialiste de l'œuvre de Masrel, qui en découvrant mon travail, me dit bah, « Écoute, il faut absolument que tu viennes à la maison, j'ai des tas de documents à te montrer, dont le film de Bertolt Brecht, qui à ce moment-là, on était aux alentours de 2003-2004, à ce moment-là, je ne sais pas pour quelle raison encore, mais ce n'était pas tout à fait dans le domaine public, semble-t-il, mais lui avait un document. Maintenant, semble-t-il, le DVD, on le trouve facilement, il est vendu, et donc les problèmes des droits ont sans doute été réglés. Mais moi, voilà, je ne connaissais pas ce film, et je le découvre à ce moment-là. Bon, voilà, bon, c'est évidemment, c'est un nouveau, une nouvelle découverte. L'idée du mouvement... De toute manière, l'idée du mouvement, dans la gravure sur bois, elle est présente dans le processus même de la gravure sur bois. Et d'ailleurs, Masrel ne cesse de le montrer dans ses livres. Ses personnages sont tout le temps en mouvement. Ces personnages sont tout le temps en mouvement. Et d'ailleurs, Thomas Mann, quand il écrit la préface du roman gravé de Masrel, il présente, évidemment, de manière, je dirais, semi-ironique, mais il présente l'œuvre de Masrel comme étant du cinéma.
Frémok. Alors Frémok, dans le monde de la bande dessinée, il s'agit d'un monde à part avec des artistes qui font un collectif. Il y a des plasticiens, il y a des gens de la BD, du scénario. Je pense à Michael Matisse, plasticien charleroi, ou bien Thierry Van Hasselt, qui me semble être leader du groupe.
Oui.
Et donc d'emblée, il y a un rapport cinématographique. On passe le rouleau, on tourne la manivelle de la presse. Donc le mouvement, il est présent dans la gravure sur bois. Et je crois que presque matériellement, ça induit un registre visuel qui va vers... On montre l'image en mouvement. Et puis on passe à l'étape suivante, ben, on va mettre vraiment en mouvement l'image gravée.
Une personne qui vient du monde de la bande dessinée, mais lui se dit plutôt du roman gravé, un peu à la manière de Masrel. Alors pour l'exposition Vrek Notwork, il utilise donc la technique du remploi, donc il traduit en gravure sur bois des images qu'il va pêcher dans différentes sources, et notamment le cinéma, c'est ce qui est le plus prégnant et le plus visible dans l'exposition. Et donc il parle non pas de roman gravé, mais il parle d'essai gravé. Aussi parce que on sort du récit et il y a une vraie abstraction aussi, fil continu au sein des gravures.
Et ça est présent chez Franz Masrel, et moi j'ai essayé de redécouvrir ça, évidemment, à notre époque, en passant par d'autres biais que les biais de Franz Masrel. Et par exemple, le film que j'ai réalisé avec Adolfo Avril, voilà, c'est nous qui l'avons réalisé. Et si Bertolt Brecht, lui, l'a transposé dans des techniques qui ne sont pas tout à fait des techniques de gravure sur bois pour composer son film, eh bien, en tous les cas, nous, on est resté très proche de la gravure sur bois. Et on a filmé au banc titre les gravures que nous avions imprimées.
Ils ont un lien extrêmement particulier au métier de BDiste, entre guillemets, ou au monde de la BD, à savoir que la BD traditionnelle, telle qu'on l'imagine, est en fait un ouvrage avec des fonctions extrêmement spécialisées et un travail qui est également extrêmement spécialisé. Il y a le scénariste, le dessinateur, et le métier est comme ça, l'ouvrage est comme ça découpé, en fait. Ici, les artistes font tout. Ils font tout. Et Olivier Depré, lui aussi, fait tout. Donc il grave, il dessine. Quand il y a des textes, il pense les textes. Il écrit à propos de ses œuvres. Dans la publication, il travaille aussi avec les éditeurs, les imprimeurs. Donc C'est vraiment une œuvre à part entière et pas une partie d'une œuvre dont l'artiste se sent investi.
Faire vivre les droits culturels, Wreck Not Work, nature morte, nature vivante. Wreck Not Work, rétrospective Olivier Depré à la Biblioteca Vitocchiana jusqu'au 18 janvier avec Géraldine David et Olivier Depré.
Et du nouveau roman, Claude Simon, par exemple, qui est un auteur qui a été très important. Chez lui, ce qui m'a appris, Claude Simon, c'est qu'on pouvait mettre en scène un objet narratif avec des sauts et des ellipses énormes et passer d'un degré à un autre sans recourir à la liaison causale traditionnelle de l'explication de « et puis Jules a fait ceci parce qu'il avait mangé cela ». Non, on est ailleurs, on est dans un espace, puis soudainement dans un autre, et que c'est possible de fonctionner aussi, de créer des livres de cette manière-là. Et donc la lecture, bon ben voilà, le premier livre auquel j'ai travaillé, c'était une adaptation du Château de Franz Kafka, et pour moi la notion de bibliothèque, le texte, la lecture est quelque chose, ce sont des éléments qui activent énormément le processus de recherche, le processus créatif et le processus de production des images. Bon, voilà, on retrouve le Barajo de Munoz et Sampaio, qui sont aussi des auteurs qui ont énormément influencé ma génération. Hein. En réalité, nous, quand on se rencontre au début des années 90, on va plus se tourner vers la bande dessinée italienne, espagnole, sud-américaine que vers la tradition franco-belge, en fait. Toute cette tradition-là, qui justement est une tradition... Enfin, est une tradition. C'est une bande dessinée moderne qui entretient des dialogues avec la peinture, avec la littérature. Enfin, Brescia, il introduit Borges dans le personnage de Borges dans ses livres. Il y a les adaptations de Cthulhu, etc. Donc, ça nous sensibilise énormément à tout l'apport énorme que la littérature peut avoir pour l'outil, le médium que nous utilisons, qui est la bande dessinée.
Nature morte, nature vivante, au site Grand Ornu jusqu'au 8 mars. Avec Françoise Foulon, Dominique Blondiot, Olivier Devrint et Marie Pop.
Ça, c'est une œuvre de Tony Mattelli. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un vrai pissenlit, mais c'est une œuvre en bronze qui imite parfaitement la réalité du pissenlit. C'est une œuvre de Tony Mattelli, un artiste américain, qui envahit comme ça les galeries chics et les musées avec ses mauvaises herbes, qui en fait sont une métaphore de la situation qu'on connaît aujourd'hui. La mauvaise herbe, c'est quelque chose d'envahissant, qu'on ne maîtrise pas, c'est quelque chose de têtu. On a beau la détruire dans les espaces urbains à force de produits chimiques, elle revient, elle réapparaît. Et donc, de se trouver dans un musée ou dans une galerie d'art, elle trouve refuge dans un espace culturel. Et on porte sur elle un regard soit de répulsion, soit de bienveillance, soit de curiosité. Et c'est aussi évidemment une métaphore par rapport aux migrants.
Faire vivre les droits culturels. Wreck Not Work, nature morte, nature vivante, par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Devrint Olivier, je suis le chef au Rhizome, donc, qui se situe dans le Grand Ornu, qui est patrimoine de l'UNESCO. En général, on reçoit quelques mois avant le thème de l'exposition, et qui ici est sur la nature morte. Ça tombait bien parce qu'on travaille beaucoup les conservations, les légumes, les fermentés en pickles, conservés dans des silos, etc. Donc ça rentre vraiment dans ce thème-là parce qu'on utilise des légumes qui sont entre guillemets, on va dire morts, mais qui sont vivants grâce à la fermentation. Et donc on utilise un peu plus dans notre menu ces légumes-là pour que ce soit en rapport avec l'exposition.
Le nickname d'un artiste qui s'appelle Trudeau Engels, qui est belge aussi, Et la pièce s'appelle Aqua con gas, l'eau pétillante, voilà. L'artiste, il a beaucoup investigué sur le thème de l'eau, de la privatisation des fournisseurs à la surexploitation de l'eau et des sources. Cette pièce, par exemple, elle a été faite à partir de ce qu'il a vu au Portugal, où ils ont inondé tous des terrains pour produire de l'électricité hydroélectrique. Et ils ont inondé tous des champs des oliviers. Et lui, il a, pour protester contre cet acte, qui est un acte de commerce et de capitalisme, soi-disant, il a voulu montrer des oliviers bonsaï qui sont sous l'eau, comme ils étaient dans les champs au Portugal.
Donc ici, le prochain menu qui va commencer dans une semaine et demie sera en fonction de l'exposition, oui. L'exposition juste avant était sur l'air, et donc on avait des choses un peu plus aériennes, dans le sens où des chips soufflés, ce genre de choses, quoi.
Alors, c'est une œuvre de Gabriel Rico. Ceux qui sont allés à la Biennale de Venise cette année en ont vu un peu partout, au Jardin et à l'Arsenal. Il est architecte de formation et on le sent, ce sont des pièces très construites où il allie la technologie et les objets trouvés. Et c'est le cas de cette pièce-ci. Le couteau et la plume sont des objets trouvés. Le néon et le cadre en laiton, ce sont des objets très construits, donc venant de sa formation d'architecte. Dans toutes ces pièces, il attire l'attention sur la notion d'asymétrie. Donc le cadre en laiton s'arrête et l'angle en néon commence. Et les objets trouvés, la plume et le couteau, ben, on peut imaginer aussi, on peut élaborer un récit autour de ça, que le couteau a tué l'oiseau dont est extraite la plume.
Olivier Devrine.
Vraiment une cuisine qui est locale, de un, parce qu'on a des magnifiques artisans, des magnifiques producteurs dans notre région, que j'ai pris à apprendre et à connaître, et qui nous font des choses extraordinaires, que ce soit en goût et en qualité ou quoi que ce soit. Donc pour moi, ça devient une logique, de un, parce que chez moi, personnellement, je le fais, et de deux, parce que pourquoi aller chercher ailleurs alors qu'on l'a ici à quelques kilomètres de chez nous. Et c'est aussi mettre en valeur ces artisans pour les habitants autour, et on le fait via des marchés des artisans qu'on fait au sein de notre établissement.
Je suis venu, Marine Poc, à cette journée qui s'appelait « Culture et démocratie » dans les mêmes lieux où nous sommes ici pour l'exposition « Nature morte et nature vivante ».
L'idée, c'est que chacun puisse, et d'une certaine façon, soit appelé, soit invité à habiter les fonctions collectives. Nous avons besoin de conseillers publics hospitaliers, nous avons besoin de conseillers publics scolaires, nous avons besoin de conseillers publics agricoles, ruraux, nous avons besoin de conseillers publics urbains. C'est cette idée-là.
Y aurait-il relation entre ces questions ?
Il y a une chose qui relie le tout, c'est l'actualité, c'est la situation de notre monde aujourd'hui. Pendant la journée culture et démocratie, il y a eu des questions qui ont été soulevées, qui m'ont énormément touchée. Il y a eu le témoignage d'un artiste, compositeur, musicien, jazz.
Ces silhouettes qui se découpent sans arrêt, comme sur les parois d'un enfer. Elles s'amassent toujours plus, ombre pesante. Ils sont nombreux. Les cales en sont pleines. Ils ont des pirogues qui chevauchent la vague. Les coques se brisent. Des lames découpent les êtres par l'intérieur. On entend une femme gémir avec le vent. Elle voudrait crier à l'aide, mais cela est étouffé. Comme tout le reste. De l'eau salée s'engouffre par la trachée d'un homme vêtu de bleu. Sa peau est sombre. La mer est sombre. Le cadavre de l'homme en bleu, sombre.
Le texte de la chanson parlait simplement de la situation de migrants sur un bateau, où à un moment on doit virer un gamin par-dessus bord parce qu'il crie trop, parce qu'il prend trop de place. Après avoir pris conscience de cette situation-là, on parle des droits culturels. Le gap peut paraître énorme. Il est énorme, évidemment. Et en même temps, ça nous interroge tous les jours, nous, professionnels de la culture, sur le rôle qu'on peut jouer pour éviter ce genre de catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est une question que tout le monde se pose. En écoutant l'actu, tous les jours, on se dit « Moi, qu'est-ce que je peux faire ?» Et nous, professionnels de la culture, quel est notre rôle ? Est-ce que c'est montrer de belles choses dans des musées, faire des expositions avec une thématique bien développée, bien argumentée, bien illustrée. Ou est-ce que c'est interpeller le citoyen sur les enjeux, les éventuelles solutions à apporter? En design, c'est quelque chose évidemment d'important. Les designers ont un rôle à jouer, les architectes ont un rôle à jouer dans la façon dont on produit ce qui nous environne aujourd'hui, tout simplement, de façon plus respectueuse, plus consciente de toutes les conséquences que peut avoir n'importe quelle production sur le monde, sur notre planète.
On cite le Grand Ornu, nature morte, nature vivante. Dominique
Blondiot.
Blondiot, vous avez pris votre voiture et conduit dans la région cet artiste.
Alors, absolument pas. Je suppose qu'elle est allée à pied visiter la région. Personnellement, c'est sur le terri le plus proche, celui que nous exploitons, je dirais, à partir des visites du Grand Ornu, donc le terri du Neuf, le terri Saint-Désiré. Et bien sûr, on démarre du Grand Ornu à pied, on fait la petite grimpette à pied, c'est un terri pépère, hein, on n'a pas beaucoup de mal. Et donc, elle a suivi la visite, comme des tas d'autres personnes, y compris du 3e âge et plus, pour voir ce qu'était devenu ce qui était au départ un tas de déchets du charbonnage, mais qui a été renaturé de façon spontanée et de façon aménagée.
Et donc, cette journée sur les droits culturels m'a évidemment interpellée d'abord sur le rôle que nous jouons, nous, sur la situation du monde, évidemment.
J'ai parlé là-bas d'archéologie contemporaine, en ce sens qu'au moment de l'aménagement, il y a eu des bancs qui ont été installés, il y a eu une table d'orientation, différents équipements.
Et aussi sur l'importance de la culture aujourd'hui, sur l'importance de pouvoir conscientiser tout le monde et d'utiliser un langage qui soit différent du langage qu'on utilise tous les jours. Il y a une personne qui m'a marqué énormément, Bernard Maris. Un économiste qui est décédé malheureusement durant les attentats de Charlie Hebdo. Et Bernard Maris, économiste, attirait l'attention du monde entier sur l'importance du rôle des artistes. Il disait, on est entouré de gens qui travaillent dans la pub, des grandes agences de communication qui jouent un rôle important, qui gagnent des fortunes, etc. et qu'on considère dans la société comme étant des incontournables. Et il disait, quand il s'agit de passer des messages autres que les messages publicitaires, ce sont les artistes qui jouent ce rôle primordial d'alerter la société. Il disait, mais si nous n'avons pas ces personnes, ces artistes, qui sont des gens qui sont visionnaires, qui ont des intuitions, des espèces de prises de conscience spontanées, un peu avant tout le monde, et qui les expriment à travers un langage qui est le leur, qui n'est pas le langage qu'on utilise tous les jours, dont on est bassiné tous les jours à la radio, à la télé, sur Internet. C'est un autre langage qui parle à nos tripes directement, qui parle à nos sens, qui parle à notre émotion. Et donc ces gens-là ont un rôle de sonneur d'alerte.
Si on voit des débris de terre, de briques, etc., bien ce sont des parties de ces équipements qui étaient là pour le confort des utilisateurs, mais qui ont été détruits, jetés à terre, parfois lancés au long des pentes. Sinon, je dois reconnaître qu'actuellement, il y avait peu de débris sur les chemins que nous avons empruntés, puisqu'il y a eu un effort notamment de la commune pour rendre ce terri agréable à la visite. Sinon, il y a vraisemblablement encore des coins où il reste des déchets sauvages.
Déchets qui sont magnifiés ici dans le site du Grand Ornu, dans cette exposition intitulée.
Mais en fait, dans cette exposition, si on comprend bien, elle n'a pas collecté des déchets sur les terris. Elle s'est mise en question elle-même en allant récupérer dans sa cave des restes des différentes installations, des différentes préparations qu'elle avait faites. Donc ces éléments ne viennent pas de nos terris. Ce qui vient de nos terris, ce sont des cailloux naturels, des morceaux de schiste, des morceaux de terre, et donc ceux-là, quelque part, sont parfaitement intégrés dans le cycle naturel. Ils y retourneront de toute façon.
Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de mettre en avant ici au Grand Ornu à travers toute la programmation. Et je pense que c'est le cas dans l'exposition Nature morte, nature vivante. On a interpellé toute une série d'architectes, artistes, designers, peu importe leur profession. Ce sont des gens qui utilisent un langage qui est le leur, pas nécessairement celui de le nôtre, enfin le langage courant, mais donc un langage qui va parler directement à nos sens, à nos émotions, pour nous dire attention, voilà ce qu'on a fait, pour dire regardez, à travers une nature morte, à travers des vases qui se dégradent, qui s'effondrent. Ça évoque toute une série de choses, toutes ces images en appellent d'autres, nous font penser à toute une série de réalités, à d'autres images qu'on a vues dans la presse, hein, suite à des inondations, suite à des pluies diluviennes et ce genre de choses. Et donc c'est nous rappeler, attention, regardez ce qu'est devenu notre monde. Et la question suivante, c'est, et qu'est-ce qu'on fait ?
Faire vivre les droits culturels, wreck not work, nature morte, nature vivante. Autour de la rencontre du site Grand Ornu le 4 octobre dernier, avec Fabien Fiorini, Laurent Wanson, François Stulkens, Bernard Focroule, Luc Carton, André Foulon. Wreck not work, rétrospective Olivier Depré à la Bibliothèque Vitocchiana jusqu'au 18 janvier avec Géraldine David et Olivier Depré. Nature morte, nature vivante, au site Grand Ornu jusqu'au 8 mars avec Françoise Foulon, Dominique Blondiot, Olivier De Vrindt et Marie Poc. Faire vivre les droits culturels, wreck not work, nature morte, nature vivante, par Thierry Junico. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.